Radio Grand Ciel ensemble. À la technique Jean-Marie, à l'animation André. Nous recevons aujourd'hui Anna Rodriguez, qui est adhérente à Eure-et-Loir Nature, et Thierry Leterme, qui est adhérent aussi, mais qui en plus est représentant au Pays du Noir, et qui fait partie de la commission animation, que nous aurons l'occasion, je pense, de voir tout à l'heure. Voilà. Bonjour Anna, bonjour Thierry. Bonjour. Vous allez peut-être d'abord nous présenter Eure-et-Loir Nature, puisque c'est la première fois que vous venez à l'antenne de Châteaudun. Voilà.
Donc, Eure-et-Loir Nature, c'est 250 adhérents au niveau du département. Donc, 25 adhérents dans le sud du département. Et on peut compter la moitié d'actifs, ce qui est pas mal. Donc, le siège est à Morancé, où travaillent 6 salariés.
Alors, ces salariés, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'on se demande un peu.
Alors, ils ont un travail très diversifié. On a un directeur, bien sûr, qui gère les financements. On a des salariés qui font plutôt l'animation scolaire.
D'accord.
D'autres qui sont spécialisés donc dans les inventaires
naturalistes.
D'accord, donc les inventaires d'animaux, d'oiseaux, de tout.
Ben, il y a également la botanique. En fait, c'est toutes les disciplines naturalistes qui sont étudiées. Ça va être un travail sur le terrain pour découvrir, par exemple, dans un milieu donné, quelles sont les espèces animales qui y vivent, et puis toute la flore qui y pousse. Ça permet de découvrir si un environnement est riche en biodiversité ou non, s'il y a lieu d'être protégé ou pas, ou si on doit le laisser ou l'entretenir. Voilà, ce sont des actions qui permettent de travailler après... sur toutes les actions qui peuvent être menées pour maintenir cette biodiversité dans un espace donné.
Oui, pour éviter qu'on y construise des HLM, quoi.
Ouais, éventuellement, oui, ça peut être ça, ou ça peut être justement, lors d'une étude sur le terrain, on peut découvrir une espèce qui va permettre de définir que cet environnement, il est riche et qu'il mérite d'être protégé.
Oui,
alors parfois, on peut découvrir, comme par exemple au Bois des Gars, qu'il y a une espèce de chauve-souris qui est la barbastelle, qui va définir cette partie-là en zone Natura 2000.
D'accord.
On a plusieurs espèces, qu'elles soient animales ou végétales, qui permettent de classer un milieu en zone Natura 2000.
Alors quand il est classé en zone Natura 2000, quel est l'avantage, quel est l'inconvénient?
Il n'y a ni avantage ni inconvénient. En fait, les activités humaines peuvent continuer, elles peuvent continuer, si ce n'est que on doit faire attention à la manière dont on va gérer le milieu.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Donc Thierry, il y a des commissions aussi?
Oui, alors donc il y a 3 commissions. Donc la première, c'est patrimoine naturel, eau, agriculture. La deuxième, c'est énergie, déchets, air, transport. Et la troisième, la commission animation.
D'accord. Voilà. Vous allez peut-être nous dire un peu ce que font ces différentes commissions.
Non. Oui, enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ce serait beaucoup trop long. Je voudrais rajouter quand même qu'on est fédéré au niveau régional à France Nature Environnement Centre Val de Loire.
D'accord.
Qui, cette association, est fédérée au niveau national à France Nature Environnement. C'est la fédération qui chapeaute toutes les associations de protection de la nature, y compris par exemple la LPO.
La LPO, c'est quoi?
La Ligue de protection des oiseaux.
D'accord.
Dont on fait partie également.
D'accord. Voilà. Mais je m'en doute, parce que si vous aimez la nature, c'est dans la protection des oiseaux, des plantes, de tout ce qui, de tout ce qui vit.
Ouais, voilà.
D'accord. Donc, vous avez un journal,
Alors, on a un bulletin de liaison qui s'appelle La Gazette. donc qui paraît tous les 3 mois. Et on a aussi également maintenant, c'est dans l'air du temps, une Gazette numérique.
D'accord.
Pour coller à l'actualité.
Alors, Gazette, ça vient de où ? C'est un oiseau, ça ?
Alors.
Ça vient de. En fait, c'est un mélange entre la Gazette, qui d'accord. était donc un journal, voilà. Ouais. Et puis, on a voulu faire un petit jeu de mots entre justement un oiseau qui s'appelle l'aigrette Gazette, qui est un héron blanc. Et puis le mot Gazette. Donc en fait, on a nommé notre bulletin de liaison la Gazette. Donc d'accord. dedans, il paraît toutes les observations qui auront été faites dans les domaines variés, dans le Eure-et-Loir. Il y a parfois un point fort qui va être développé sur un thème défini. Ça peut être une plante, ça peut être un oiseau, un mammifère. Là, c'est actuellement, c'est sur l'eau, voilà. Mmh. Et puis, après, il y a différents sujets qui sont développés, comme par exemple, là, un sujet sur le corbeau ou la grenouille. Voilà.
L'eau, donc, vous avez été consulté, je suppose, pour il y a une enquête sur l'eau, il n'y a pas longtemps.
Oui, tout à fait. Donc, actuellement, il y a une consultation du public au sujet de l'eau. Et... Donc, Eure-et-Loir Nature relaie cette consultation en créant des jurys citoyens. Donc, en 2013, c'était à destination des adultes. Oui. Et cette année, c'est à destination du jeune public, donc des lycéens. Et les 3 lycées du Noix participent. Hein, donc, Nermont, Paulsen et Zola. Mmh. Voilà. Donc, en fait, il y a 9 jurés. Hein, qui questionnent leurs copains lycéens.
Lycéens, hein, oui, d'accord. Dans chaque lycée, il y a 9 jurés.
Non, en fait, il y en aura 3 dans chaque lycée.
3 dans chaque lycée, d'accord.
Voilà. Mmh. En sachant qu'il y a aussi... Ça marche par bassin versant. Hein. Nous, c'est le bassin Loire-Bretagne.
D'accord.
Hein, et le deuxième bassin versant en Eure-et-Loire, c'est le bassin Seine-Normandie. Hein, puisqu'on d'accord. a 2 rivières, en fait. Hein, oui, donc, il y a 2 bassins versants.
Oui, bassin versant, c'est vers où voilà. la rivière se jette dans la mer. Quoi.
Voilà. Et donc, voilà. on ne va pas oublier aussi Nogent-le-Rotrou, parce qu'il y a l'Uine, et donc, il y a le lycée de Nogent-le-Rotrou qui participe également. Aussi. Donc, je vous disais, ces jurés questionnent leurs copains, quoi, en fin de compte, sur la quantité d'eau. Est-ce qu'on aura... toujours la même quantité d'eau, quoi. Hein, mmh, parce qu'actuellement, mmh. il suffit d'ouvrir le robinet. Hein, et les lycéens, quelquefois, ils se disent l'eau, on peut, ça se fabrique. Hein, on a la formule, ça se fabrique. Eh bien, non, c'est pas comme ça. Il y a la qualité aussi liée aux pesticides. Bon, il faut savoir quand même que les eaux de surface sont polluées par les pesticides, mais également, et surtout dans le sud de l'Eure-et-Loire, hein, je dirais sur un croissant qui va de Châteaudun jusqu'à Orléans, on a les eaux souterraines qui sont particulièrement polluées par les pesticides. Et donc, il suffit de regarder les cartes.
Ce qu'on appelle la nappe phréatique.
La nappe phréatique, donc c'est l'eau qu'on boit à un moment ou à un autre. Hein. Voilà. Et ensuite aussi les conflits d'usage, par exemple avec les problèmes d'algues sur les côtes.
D'accord, sur les côtes de Bretagne.
Sur les côtes de Bretagne, voilà, par exemple. Et donc, les avis seront rendus début juin.
D'accord. Donc, avant de passer au programme suivant, on va écouter des oiseaux, je crois, un concert d'oiseaux.
Thank you.
assez rare en Auvergne. Donc,
bon,
on peut discuter tous les deux aussi.
Donc, nous recevons Eure et Loire Nature, Anna Rodriguez et Thierry Leterme. Nous avons parlé de l'association, nous avons parlé des différentes actions. Et là, vous désiriez parler du groupe naturaliste, je crois.
Voilà, donc il y a deux groupes. Hein, le groupe faune, tout d'abord, donc les oiseaux, les chauves-souris, les insectes, les batraciens et même les reptiles. Donc, et ensuite, il y a un groupe qui grossit actuellement, c'est le groupe botanique.
D'accord.
Voilà, Anna va développer.
Alors, pour le groupe naturaliste, il y en a certains qui travaillent dans différentes actions et dans différents, comment dire, milieux d'Eure-et-Loire et qui suivent différentes zones, comme par exemple la zone de protection spéciale qui est celle de Beauce et l'autre qui est la vallée de la Conie. Et dans les, comment dire, travail d'un suivi, il y a celle des busards cendrés. C'est un rapace qu'on voit voler au-dessus de la plaine de Beauce. Ce rapace-là est assez rare en Beauce. On a trois espèces de busards. Le busard Saint-Martin, qui est le plus commun qu'on a toute l'année en France. Et puis, il y a un busard un peu plus grand, qui est le busard des roseaux. Et donc, le busard cendré, qui ressemble beaucoup au busard Saint-Martin, qui est beaucoup plus foncé, enfin, qui a des couleurs un petit peu différentes. Et cet oiseau a la particularité de nicher dans les zones agricoles, les céréales.
D'accord.
Et alors le souci, c'est que les jeunes, souvent, sont encore au nid au moment où il y a la moisson.
Parce qu'en fait, il faut préciser que c'est un migrateur et qu'il arrive assez tard, quoi. Donc il commence sa nidification assez tard.
D'accord.
Donc automatiquement, bien sûr, les jeunes sont à l'envol beaucoup plus tard. Et quelquefois trop tard. Et ils sont avalés par les moissonneuses.
Voilà. Et donc on a différents naturalistes qui vont travailler à repérer les emplacements où les oiseaux nidifient. Et ensuite, il y a un travail qui est fait avec l'agriculteur pour essayer d'éviter que justement ce nid passe dans la moissonneuse. Donc
D'accord.
C'est un travail de longue haleine parce qu'il faut repérer tous les endroits où sont situés ces oiseaux-là. Repérer le nid, c'est pas évident. Quand vous avez un énorme champ, il faut être à plusieurs ou être à différents endroits pour arriver à localiser le point exact où l'oiseau est situé. Et puis ensuite, on définit, soit on laisse un petit carré non moissonné, ou bien alors carrément le nid est déplacé. De façon à ce que justement les jeunes puissent partir naturellement après leur émancipation pour vivre leur vraie vie d'oiseau.
Sachant que c'est la moins bonne solution.
Voilà,
oui. Bien sûr.
Donc par exemple, il y a le busard cendré quand même. Une toute petite population. Par exemple, en 2013, il y a eu un jeune à l'envol. Il y a eu un jeune qui a été sauvé. Ouais.
Mm-hmm.
Et donc parce qu'il y a une très mauvaise reproduction. L'année passée, ça a été un peu mieux, quoi.
Et il a une mauvaise réputation ou pas? Parce qu'il y a beaucoup.
Alors, le busard cendré est au contraire utile parce qu'il mange énormément de campagnols.
Ouais.
Et pour vous dire, l'année passée, il y a un président de chasse qui nous a indiqué qu'il y avait un nid à un certain endroit, quoi. Donc les mentalités évoluent par rapport aux rapaces en général,
oui,
et
oui.
C'est très positif aussi. Et on a de plus en plus de bons contacts, des contacts fructueux avec les agriculteurs.
Et les chasseurs.
Vraiment... Oui,
oui. Et puis,
c'est plein d'espoir.
Oui, on s'aperçoit aussi que maintenant, les agriculteurs reviennent à une autre façon de voir les choses. Et notamment, on s'aperçoit qu'on voit de plus en plus de piquets installés dans les champs pour permettre aux rapaces d'avoir un lieu d'affût pour repérer justement les campagnols qui peuvent être un fléau lors des années où ils sont en surpopulation.
Mmh.
Parce que, en fait, c'est un animal qui va se reproduire tous les deux mois.
Oui.
Et puis, la femelle va avoir un certain nombre de petits, en moyenne, on va dire 5 pour être dans un minima. Et sur ces 5, souvent, il y a 3 femelles. Et à l'âge d'un mois, ces femelles sont capables de se reproduire également.
C'est exponentiel.
Sachant que ça mange 5 grammes de végétaux par jour, vous multipliez ça par le nombre de jours et en année, et on arrive à par exemple, plus d'une tonne de végétaux à partir d'un couple de reproducteurs. À la fin de l'année, on a plus d'une tonne de végétaux mangés. Donc l'impact, enfin le travail de tous les prédateurs de cette espèce-là est vraiment très important. Ce sont vraiment des alliés pour les agriculteurs.
D'accord. Et donc on en trouve en Beauce beaucoup.
Du busard cendré, non.
Non.
C'est vraiment un oiseau qui est de plus en plus rare, même pas forcément qu'en Beauce. Hein.
Parce qu'il vient de où, ce busard cendré ?
Il vient de où ? Et en fait, il se reproduit en France et ensuite, il va passer l'hiver en Afrique.
En Afrique, d'accord.
Voilà. Oui.
Donc avec les aléas de la migration... En Afrique, ils n'ont pas la même vision des choses. Hein. Voilà, il y a encore des produits chimiques utilisés, etc.
Oui.
Donc ça,
oui, parce que c'est aussi quand même.
Voilà, c'est un. Faut savoir aussi que c'est un rapace, le busard cendré, qui consomme beaucoup d'insectes.
D'accord.
Voilà.
Donc c'est quand il est en Afrique, ouais, il en mange beaucoup.
Voilà.
Et enfin, si vous voulez, il mange à peu près 60% de son alimentation constituée de rongeurs, et notamment le campagnol.
D'accord.
Et après, le reste, c'est un mixte de différents animaux. Ça passe par les insectes, les lézards, éventuellement les jeunes oiseaux qui ne sont pas encore volants.
Mm-hmm.
Mais principalement, c'est quand même le campagnol.
C'est quand même principalement utile.
Oui. Mm.
D'accord.
Et puis, pour continuer dans le travail de recherche naturaliste, il y a aussi le comptage national des chauves-souris qui se fait entre le mois de janvier et le mois de février. C'est un comptage national. Il y a le suivi des zones odonates. Ce sont donc toutes les sortes de libellules.
Mmh.
Et également un groupe qui va travailler sur... à repérer toutes les stations d'orchidées sauvages, parce qu'en Beauce, il y a beaucoup également d'orchidées.
J'ai appris que dans Lièvre, il y avait des orchidées sauvages. Enfin, sur les bords.
Mais il y en a partout, même à Châteaudun, il y a des orchidées. Oui. C'est vrai que c'est une fleur qui peut passer inaperçue si on ne la connaît pas, mais on a des orchidées, plusieurs espèces d'ailleurs.
Mais elles sont petites alors ?
Pas forcément, parce que quand on pense à l'orchis book, c'est une orchis qui est assez haute.
Mmh.
Elle est assez particulière et elle dégage une odeur de bouc.
Ah, oui, c'est moins agréable.
Voilà.
On voit une belle fleur, on dit. Ah, bon.
Non. Voilà. Il y a aussi le suivi des oiseaux communs parce que, mine de rien, on les a tous les jours autour de nous, mais parfois on ne s'aperçoit pas que certaines espèces sont en train de se raréfier, notamment le moineau domestique.
Mm-hmm.
En 10 ans, ces populations ont chuté de 90%, ce qui est énorme.
Ah oui.
Entre les années 90 et les années 2000, les populations ont chuté de 90%.
Mais c'est vrai que moi, j'ai un petit jardin, enfin un jardinier en centre-ville. Je vois rarement des moineaux.
Ben, on en voit de moins en moins, oui.
Oui, c'est vrai.
Et ça, c'est lié au fait qu'on a restauré beaucoup de bâtiments et que souvent, il va constituer son nid dans des trous de mur ou sous la toiture et qu'on met de plus en plus des protections pour éviter justement que les oiseaux n'y pénètrent et ne nichent. Donc du coup, il se retrouve avec nettement moins de choix pour nidifier. Et voilà, donc...
Donc nous allons prendre notre deuxième pause musicale et qu'est-ce qu'on va écouter ?
Eh bien encore des sons de la forêt avec des chants d'oiseaux.
Thank you.
Radio Grand Ciel, ensemble. Nous recevons aujourd'hui Anna Rodriguez et Thierry Leterme, qui sont adhérents à Eure-et-Loire Nature, qui nous ont beaucoup parlé des oiseaux, qui nous ont présenté leur garzette. Et donc là, je crois que vous vouliez parler un peu des crapauds en ce moment.
Oui, parce que c'est la pleine période de migration des crapauds qui se dirigent de leur lieu d'hivernage, parce qu'il y en a beaucoup qui vont passer l'hiver enfoncés, enterrés dans la terre. Et puis ensuite, ils en sortent pour se retrouver vers les lieux de reproduction que sont les mares. D'accord. Et parfois, ils ont de longs trajets à effectuer et traverser des routes. Mm-hmm. Donc, on a mis des dispositifs en place, notamment entre Saint-Prest et Saint-Piat, où les crapauds vont tomber dans des seaux, et donc les adhérents vont passer une bonne partie de la nuit à récupérer les seaux pour les faire traverser de l'autre côté, de façon à ce que les crapauds ne se fassent pas écraser, parce que ça peut être vraiment des centaines de crapauds qu'on retrouve écrasés. Oui. Et donc c'est quand même un animal qui est aussi intéressant et utile que n'importe quel autre. Il y a lieu de mener des actions de protection pour cette espèce-là. Et donc ça, c'est pendant toute la période de migration, qui est de quelques jours, où on va donc les ramasser et les emmener de l'autre côté, de façon à éviter qu'ils soient écrasés par les voitures.
Par les voitures. Alors, et quelquefois, ça peut être dangereux même pour la circulation. Donc là,
ça glisse.
Oui, ça glisse. Et on a obtenu de la préfecture donc une déviation, en fin de compte, pendant la migration des crapauds. D'accord. Donc c'est respecté, d'après les bénévoles du coin,
c'est assez bien respecté.
Quoi. Voilà. Et puis, ou alors les gens ralentissent. Quoi, voilà.
D'accord. Vous vouliez aussi nous parler des jeunes, je crois.
Alors oui, actuellement, nous avons des adhésions de jeunes qui ont fait des études scientifiques, naturalistes, et qui désirent prospecter sur le terrain. Au contact.
C'est dans le cadre de leur travail ou de leurs études ?
Non, ils ont fini leurs études. On va dire peut-être assez théorique. Oui. Ils veulent mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Donc, notamment au contact des adhérents plus anciens, quoi, qui ont l'expérience du terrain, quoi, en fait. Et donc, c'est vrai. On a même des couples de.
D'étudiants.
De scientifiques. De jeunes adultes, en fait, oui.
D'accord. Donc, qui viennent étudier un peu l'Eure-et-Loire, en quelque sorte.
Oui, qui habitent l'Eure-et-Loire et qui.
Voilà. Et c'est formidable de se retrouver avec des jeunes qui ont envie justement de participer au travail qui ont été menés durant de longues années. Mmh. Et puis maintenant, il y en a une bonne partie des naturalistes qui ont atteint un âge certain, voire... bref. Et qui parfois n'ont pas toujours le temps ou la possibilité. Et là, donc, ces jeunes ont plus de temps que cela. Et puis surtout, ça permet aussi pour les anciens de les former et qu'ensuite, il y a un renouvellement qui soit intéressant pour l'association et puis aussi pour le département.
Et puis il y a des échanges voilà. aussi par leurs connaissances scientifiques.
Ils ont des connaissances théoriques que n'ont pas forcément les bénévoles.
Oui, tout à fait. Mmh.
Oui. Donc ils s'enrichissent de vos connaissances.
Les deux s'enrichissent. Voilà.
Vous enrichissez de la théorie. Mmh. D'accord. Je crois que vous faites des sessions.
Alors oui, il y a une session
En fait, c'est naturaliste. un séjour naturaliste.
Oui, voilà, session naturaliste, un séjour. Donc le prochain, c'est au mois de mai, à l'Ascension. Donc nous irons découvrir les oiseaux de l'île de Noirmoutier.
D'accord.
Donc c'est réservé aux adhérents, bien sûr.
C'est réservé aux adhérents.
Voilà, oui.
D'accord.
Donc, on peut en profiter justement pour donner le numéro de téléphone de l'association. C'est le 02 37 30 96 deux fois.
D'accord.
Donc, le site aussi.
Vous pouvez redonner le numéro.
Alors, 02 37 30 96 96.
D'accord.
Le site www.eln28.org.
D'accord.
Donc voilà, je peux annoncer aussi les prochaines sorties naturalistes. Donc les deux se déroulent le 6 mai. Donc tout d'abord, il y a la visite d'une carrière Alors, comment concilier l'exploitation de la carrière avec la biodiversité? On découvrira notamment les Oedicnem criards. C'est un drôle d'oiseau. C'est un limicole, mais qui vit dans les terrains secs. Hein, parce que normalement, les limicoles sont plutôt au bord de l'eau.
D'accord. Hein.
Et donc, c'est une sortie en partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels de la région Centre-Val-de-Loire. Et donc, je disais, le deuxième jour, il y a une autre sortie. Alors là, c'est dans le Perche, découverte des oiseaux d'eau du Perche avec le parc naturel régional du Perche.
D'accord. Et donc, c'est pareil, il faut s'inscrire au numéro de téléphone que vous avez donné, le même, toujours.
Tout à fait, voilà.
Voilà, d'accord. Peut-être que pour terminer, Anna va peut-être nous faire des cris d'oiseaux.
Il y a un oiseau qu'on voit plus dans le Perche, qui est un oiseau très élégant, qui a un bec long, effilé, qui se nourrit souvent au sol et qui niche parfois dans les vieux trous de murs ou dans les trous d'arbres. Elle s'appelle la huppe faciée et son nom, c'est Huppupa epops. Et en fait, quand elle chante, son nom ressemble à son chant. Et quand elle chante, elle fait « oup, oup, oup ». Voilà.
D'accord.
Sinon, après, le cri le plus facile à imiter, c'est celui du coucou. Enfin, ouais. Pas si facile pas que si ça. Parce qu'en fait, avant qu'il débute son chant, il fait souvent une sorte de comme ça. Et ensuite, il chante en faisant poucou, poucou. Et quand une femelle s'approche du mâle, puisque c'est souvent les mâles qui chantent, là, il s'excite un petit peu et on entend un poucou. Voilà.
Bravo.
Très bien. Merci. Un autre cri d'oiseau pour finir.
Après, non, ça va être un... Là, j'en ai pas sous la main, enfin, dans la tête.
Dans la tête, d'accord. On va peut-être rappeler le numéro de téléphone.
Alors, oui.
Et puis le nom du site.
Alors, le numéro de téléphone 02 37 30 96 96. Le site www.eln28.org.
Voilà, bah écoutez, merci beaucoup, en espérant que cette émission fera des adeptes, des jeunes surtout, puisque vous n'avez pas l'air de vouloir des vieux.
Non, on accepte tout le monde.
Au revoir, ouais, et merci.
Les parents, les enfants, tout le monde.
Ouais.